Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
France Culture ce matin avec l'artiste et réalisateur Clément Cogitor et le directeur du Palais de Tokyo, Jean Deloisy, dans l'intervalle de résonance. On a commencé à l'évoquer, Clément, installation vidéo présentée actuellement au Palais de Tokyo. Vous proposez deux récits de manifestations aux origines physiques mystérieuses, la perception de sons émis par les aurores boréales et l'apparition d'une étrange forme lumineuse en Alaska. Des récits légendaires, inuits et saamis aux explications rationnelles occidentales. Pourquoi avoir voulu confronter notre raison à leur superstition?
J'ai pas exactement confronté leur superstition à notre raison. J'ai parlé de phénomènes ou d'objets qu'on a en commun et qu'on regarde pas tout à fait de la même manière. Et du coup, de ce qui naît de ça, c'est-à-dire des protocoles scientifiques ou des récits qui
quelle
qui
différence de perception on en a justement?
Disons que l'esprit occidental et donc aussi le mien, la majeure partie du temps cherche par des images, par le langage, à travers la perception, essayer de comprendre et de résoudre le mystère du monde.
Justifier, expliquer, voilà.
Et c'est très important. Et il se trouve que heureusement, ce mystère nous échappe, en tout cas ne se laisse jamais complètement résoudre. Et c'est dans ces moments-là que la fiction et les croyances prennent le relais. Et c'est là aussi où moi, en tant que raconteur d'histoire, commence mon travail.
Jean Deloisy, alors vous qui êtes regardeur sur cette affaire, comment se traduit, comment se regarde cette représentation de Clément Cogitor?
Alors, il y a deux aspects que je trouve absolument fascinants. D'abord, Clément vient de parler de la croyance. Et effectivement, il y a une croyance, on pense que les aurores boréales diffuse un son et les scientifiques disent non, c'est pas possible, ce n'est pas vrai. Et pourtant, tout d'un coup, il y a une sorte de modification de la compréhension physique, voire métaphysique de ces aurores. Et effectivement, on s'est peut-être trompé, peut-être que les Inuits avaient raison et peut-être qu'effectivement, il y a un son et tout le film s'organise autour des témoignages et la différence entre science, conviction, croyance se construit. Mais l'autre chose qui est extraordinaire dans le projet, c'est l'image. C'est-à-dire que l'image a une qualité qui évoque très très largement l'histoire de la peinture, la peinture dans ce qu'elle a de plus abstrait, de plus matériel, etc. Et dans ce film, il y a à la fois une histoire très très amusante à suivre et en même temps une beauté mais d'une profondeur extraordinaire qui fait qu'il y a dans les films de Clément la nostalgie de la peinture.
Alors justement, vous racontez... vous avez l'air surpris.
Non, je suis très
heureux. Vous n'avez pas vu autant de choses, Clément Cogitor, dans votre œuvre et son propos peut-être?
Je ne sais pas si j'ai vu ces choses-là, mais je suis très heureux d'entendre Jean parler de mon amour pour la peinture, parce qu'il est réel. Moi, je suis arrivé dans l'art contemporain par la peinture. Et effectivement, à l'idée de ce projet, il y avait le désir de parler de la fresque, en fait. Et j'ai filmé ces aurores boréales comme une espèce de fresque naturelle, immatérielle. Et il y a pas mal d'images que j'ai donc filmées dans le Grand Nord et puis reprojetées sur les murs du Palais de Tokyo pour les refilmer ensuite, ce qui donne une matérialité aux images et ce qui accroche ces aurores boréales sur une pierre, en fait. Et ça en fait une sorte de fresque vidéo.
Ça, c'est-à-dire que c'était un voyage que vous avez fait pour aller chercher ces images-là?
Voilà, dans le film, il y a des images que moi j'ai tournées avec mon équipe dans le cercle polaire. Il y a des images qui proviennent de l'imagerie scientifique ou de la NASA. Et d'autres qui sont des images amateurs. Je travaille aussi beaucoup avec des images amateurs, des choses qui sont publiées, des choses qui sont des images par définition non professionnelles ou pas dans un but d'être soit belle, mais qui vivent, qui sont diffusées, qui sont regardées, et de les intégrer dans un récit.
On peut peut-être juste évoquer cet autre projet que vous avez qui sera présenté au bal à l'automne prochain. Le projet s'appelle Braguino. Et c'est quoi? C'est un voyage que vous avez fait, là encore, caméra, que vous allez faire ou vous l'avez déjà fait?
C'est un voyage que je vais faire. J'ai fait un premier voyage de repérage en 2012.
Vous allez partir, appareil photo et caméra au point, pour à la recherche d'une communauté qui n'existe pas?
En fait, je vais filmer deux familles qui constituent une communauté dans un endroit de la Sibérie qui est complètement perdu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de village à moins de 1000 km. On finit par plus de 4 heures d'hélicoptère qui nous dépose au bord de l'affluent du fleuve Yenisei. Et ces familles ont développé une sorte de modèle de utopique, comme ça, de vie en autarcie, où ils vivent uniquement des ressources. Et je vais m'intéresser des questions très élémentaire ou très, comment dire, original de comment se construit la civilisation, comment les enfants grandissent là-dedans. C'est peut-être mon projet le plus documentaire ou anthropologique. Parce qu'il se trouve que ces familles, à partir du moment où elles ont décidé de vivre ensemble dans cet endroit perdu, elles ont cessé de s'entendre. Elles ont commencé à tracer des barrières dans la forêt alors qu'il n'y a même pas de chemin.
Et comme nous avec nos voisins, on a besoin de mettre des murs.
C'est un petit
parfois,
peu une sorte de voilà de conflit de voisins, mais
conflit de voisinage
au fin fond de la taïga, et sur comment est-ce que les désaccords se construisent et comment est-ce que la civilisation naît, comment est-ce qu'on perçoit l'autre et comment est-ce qu'on vit ensemble.
Donc en fait, vous allez raconter cette micro-civilisation tant que faire se peut, la documenter, la donner à voir. Là encore, mais on n'arrive plus à savoir si vous êtes un artiste, si vous êtes un explorateur, parce que vous faites quand même des voyages aux confins de la Sibérie. Il faut tenir, hein, physiquement, c'est pas n'importe où, c'est pas n'importe comment. Et puis, en même temps, un travail d'ethnologue, un travail de sociologue.
Alors, non, j'irai pas jusque-là, mais moi, mon travail, je pense que c'est de raconter ce qui m'intéresse dans l'esprit humain. Ça a à voir avec le récit, la croyance. Et ça,
nos récits communs, hein, vous dites
le
aussi.
Le récit commun, mmh. et ça, on trouve... L'humain, c'est une créature qu'on trouve à peu près partout sur cette planète. Et ça m'intéresse de le rencontrer un peu partout. Mais ensuite, mon prochain projet de film, il se passe dans le 18e arrondissement. C'est moins exotique, mais c'est tout aussi riche et passionnant.
Qu'est-ce qui se passe dans le 18e ?
Mon prochain scénario, c'est encore loin, mais c'est autour d'un personnage principal, c'est un médium. Voilà.
Une question pour vous, Victor de Quiver.
Alors, mardi dernier, Olivia Gesbert recevait le plasticien Bertrand Lavier. Il nous parlait de la différence entre deux bleus, supposés être de même couleur, mais de marques différentes. On vous propose d'écouter un extrait de cet entretien.
Plus on essaie d'adjectiver ou de préciser une réalité en pensant qu'on va être de plus en plus au près du sujet, plus ce sujet vous échappe en réalité. Et donc, plus vous essayez de définir une couleur, plus vous êtes nuancé, plus dans l'infime, vous êtes encore dans la différence.
J'ai l'impression, Clément Cogitor, que ça résume tout votre travail.
Ça résume le travail de beaucoup d'artistes, si ce n'est pas la totalité des artistes.
Par exemple, dans Ni le ciel ni la terre, plus les soldats essayent de comprendre ce qui se passe, plus ça leur échappe, mm-hmm. plus ils s'arment de technologie. J'ai l'impression que c'était aussi quelque chose contre le scientisme ou tous les attributs scientifiques. Plus on essaie d'expliquer, plus ça nous échappe.
Je ne crois pas que c'est contre, mais en tout cas, ça raconte un processus important de l'esprit humain et qui est en fait le processus de mise en scène aussi, c'est-à-dire que on cherche de fabrication d'images, on cherche à composer, à maîtriser, vraiment à maîtriser ce processus-là, et puis tout d'un coup, une sorte de grâce se produit, qui est le clignement de l'œil d'un acteur, une voix ou la présence d'un animal sur la scène ou devant la caméra. Ou le texte, et tout d'un coup, ça échappe. On l'avait pas prévu, un accident. Et en fait, c'est ça qui fait vivre tout d'un coup le plan, la scène, l'installation. Et ça, personne l'aura écrit ou maîtrisé. Ce sera produit. C'est ça qui nous échappe et c'est qui fait la beauté de nos métiers.
Jean Deloisy, sur ce qu'a dit Bertrand Lavier, c'est effectivement la quête de tout artiste aujourd'hui.
Moi, je crois que la quête de tout artiste, c'est d'essayer d'obtenir la confirmation que ce que disait Duchamp est pas tout à fait exact. C'est-à-dire que on entendait Marcel Duchamp dans votre émission il y a quelques instants quand Victor recommandait donc des choses à voir comme ça, et on entendait Duchamp qui disait l'art est un mirage. Et le fait de dire que l'art est un mirage veut dire que l'art est une croyance. C'est un mirage auquel on croit, et l'artiste ne passe son temps à vérifier la possibilité d'existence de l'art. Pour moi, c'est plutôt de ce côté-là que ça se passe.
Mmh. Alors Jean Deloisy, justement, à propos de mirage, là, de manière très réaliste, pragmatique, vous avez quand même ouvert les portes de votre palais, le palais de Tokyo, en ce moment, à des artistes du street art, pour qu'ils s'emparent des murs, qu'ils se saisissent de vos murs et d'endroits cachés. Pourquoi ? Quelle est l'idée de ce projet qui s'appelle le Lasco Project, c'est ça, non ?
Oui.
La suite de cette édition.
C'est un projet que j'aime beaucoup. Donc, se sont infiltrés à l'intérieur des souterrains du Palais de Tokyo une vingtaine d'artistes très soigneusement choisis et qui sont, à mon avis, des excellents artistes, et qui se situent comme l'est l'art urbain, c'est-à-dire entre l'institution et le monde de la ville, et donc ces espaces intermédiaires que sont les souterrains du Palais de Tokyo marchent pour cela. Et donc c'est des artistes qui ont des esthétiques très différentes. Récemment, il y a un artiste, par exemple, qui s'appelle Stelios, qui est un iconographe crétois qui vient du street art, qui peint des icônes à la bombe, et qui a fait récemment des choses très extraordinaires. Mais je vous donne un autre exemple qui vient de se passer, qui est formidable, je trouve. J.R. et Os Gemeos, donc que viennent de faire à l'intérieur d'un espace complètement caché, secret, une trappe comme ça du Palais de Tokyo, un hommage aux familles juives spoliées des instruments, de leurs instruments de musique pendant la guerre de 40, parce que les instruments de musique avaient été stockés dans les sous-sols du Palais de Tokyo pendant la dernière guerre. Et ils ont transformé tout un souterrain en une sorte de chapelle ardente, très, très impressionnante, très bouleversante. Et c'est un travail qui est sublime. On le retransmet par un petit film de 2 minutes qui a été fait par JR et qui est à l'extérieur de cette trappe, mais personne ne pourra y rentrer. Et du coup, ça devient chargé, le Palais de Tokyo devient chargé comme un objet africain peut être chargé par une puissance magique. Ça m'intéresse beaucoup.
Rappelez-nous quand même qui sont JR et qui sont les artistes brésiliens d'Os Gêmeos.
Os Gêmeos.
JR est bien connu, je crois qu'il est d'ailleurs, son projet est toujours en cours ou pas en ce moment au Louvre, sur la pyramide du Louvre, ce projet trompe-l'œil hein, qu'il a imaginé et réalisé.
Voilà, donc c'est toujours quelqu'un qui essaie d'organiser autour de lui la grande communauté et de montrer l'existence des hommes avec cette très belle matière noire et blanc, légèrement pixelisée. Il avait fait cette intervention sublime au Panthéon où toute la communauté devenait honorée comme avec la gloire que qu'être au Panthéon signifie. Et il fait ce travail parfois dans des conditions politiques, parfois dans des conditions émotionnelles, comme ce qu'il vient de faire. Donc c'est sûrement une des figures très marquantes de l'art urbain
voilà,
aujourd'hui.
Beaucoup de démesures aussi dans ses affiches, ses regards, ses visages qu'il a pu
immense,
à un moment
des portes conteneurs qui partent avec le visage de tous les dockers qui ont contribué à le faire partir, etc. Mais Os Gêmeos, c'est sans doute les deux frères, ça veut dire les jumeaux, hein, donc en portugais. Donc c'est les deux frères qui, dans le monde sud-américain, ont l'expression la plus vive, hein, qui associe tout le temps des objets à leur fresque. Et tout d'un coup, ces fresques prennent des reliefs et peuvent s'étendre sur des centaines de mètres de hauteur, des profondeurs considérables, parce que des objets font naître des personnages. Très très beau travail.
Donc en ce moment, les aurores boréales de Clément Cogitor croisent le street art de JR, mais pas seulement. Vous avez aussi invité un écrivain en cette fin de printemps, début d'été, Michel Houellebecq, dans votre centre d'art contemporain au Palais de Tokyo, pour une exposition qui n'est pas sur lui, cette fois, mais de lui.
Oui,
et comment ça a été pensé ?
Donc l'exposition s'appelle Rester vivant et c'est vraiment Michel Houellebecq a construit son univers, a montré dans la première partie de l'exposition la façon dont il regarde le monde. C'est exactement la figure opposée à celle de Clément Cogitor. Hein, Clément Cogitor, c'est comment l'imaginaire fait exploser le monde. Et Houellebecq, c'est je n'ai pas d'imaginaire, je n'ai que de l'analyse. Je regarde, j'observe et ma poésie analyse.
Il y a un petit grain de folie quand même aussi. Hein.
Il y a une folie.
Débordante.
Oui, il y a une poésie. Je pense que je préférerais utiliser ce mot-là. Finalement, il y a une poésie insistante et très analytique de ce qu'est le monde. Donc toute la première partie, c'est comment est-ce que je vois le monde avec son humour distancé et c'est une expression très drôle en fait. Et la deuxième partie, c'est comment est-ce que je vois l'art, qu'est-ce qui est à l'origine de la poésie, qu'est-ce que le désir et qu'est-ce que l'art a fait avec le désir et qu'est-ce que l'amour absolu. C'est la collaboration avec Iggy Pop sur son chien qui est bien connu. Et c'est une exposition très bouleversante et très amusante à la fois parce que c'est vraiment un portrait intérieur où il n'y a pas un élément, une lumière, une couleur, etc. qui n'ait pas été pensé au millimètre par Michel Houellebecq. Donc c'est pas du tout une exposition de ses photographies, c'est une exposition de son monde.
Clément Cogitor, Jean de Loisy vous a regardé. Si vous, vous le regardez ou regardez plutôt le Palais de Tokyo, comment vous évaluez, vous jugez ce lieu? Comment vous avez réussi à vous l'approprier? Vous trouvez que votre travail a vraiment sa place là-bas, après tout ce qu'on vient de dire?
Ouais, le Palais de Tokyo, c'est un laboratoire formidable et gigantesque et c'est passionnant. Et en plus, en tant qu'artiste, on est accompagné par des commissaires d'expo et gens à la tête de toute cette équipe qui sont des gens passionnés, brillants, qui tirent vraiment les artistes vers le haut et sont tous amoureux des artistes. Donc c'est un énorme bonheur pour un jeune artiste de montrer son travail là-bas. C'est des espaces qui sont gigantesques aussi. Il faut apprendre à travailler avec ces dimensions-là. Voilà, c'est un défi, c'est une gageure qui, quand on arrive et qu'on se dit, bah, voilà, on va montrer ces images ici, on se sent tout petit, quoi.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Clément Cogitor. Je rappelle que votre exposition, installation, pardon, est à voir jusqu'à la mi-septembre,
septembre
de mémoire. Merci beaucoup Jean de Loisy. On a parlé de tout ce que vous présentez actuellement au Palais de Tokyo. On mettra bien sûr toutes les références sur le site des Matins sur franceculture.fr. Passez un bel été tous les deux.
Merci.
Vous aussi, merci beaucoup.